Et nous commençons tout de suite avec quelques brèves. Maxime, tu voulais nous parler du Salon de l'Agriculture.
Et oui, en effet. Donc du 22 février au 1er mars 2020, à Paris Expo, porte de Versailles, se déroule le Salon de l'Agriculture, moment fort important où les petits Parisiens peuvent enfin découvrir le bruit et l'odeur de la province rurale et assister en bon viandard ami des animaux au défilé des plus jolis steaks que notre nation ait à proposer sur notre marché national. Mais il y a bien plus intéressant, évidemment. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi le théâtre des politicards qui viennent se tirer dans les pattes pour caresser la Noiraude et s'attirer les faveurs de l'électorat agricole. Aussi, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, s'emporte-t-il en arrachant son micro à un journaliste de France 5, le questionnant sur l'abattoir Sobeval, dont L214 a diffusé des images de sa non-conformité et de la cruauté d'abattage des veaux il y a quelques jours. C'est aussi Emmanuel Macron qui essaye de rassurer les agriculteurs sur leur retraite, l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne sur l'interdiction du glyphosate, la réforme à revenir de la PAC que le Brexit met vraiment à mal, de même que la filière pêche, etc. etc. Beaucoup de sujets d'enjeux donc, et certainement beaucoup de blabla pour pas beaucoup de solutions proposées en réponse. Alors, rassurés ?
Merci Maxime. Et Victor, toi, tu voulais nous parler d'un autre type de troupeau. Il s'agit du 49-3 et de l'équipe présidentielle.
Alors, va-t-on avoir le droit à un nouvel épisode de l'article 49-3 ? C'est la question qui s'est récemment invitée dans le débat sur la réforme des retraites. Donc, pour rappel, c'est un article de la Constitution qui permet de faire passer une loi sans l'accord du Parlement, ce qui permet d'éviter un débat avec l'opposition et notamment la France Insoumise, qui a déposé plus de 42 000 amendements pour retarder l'adoption de cette loi. Alors pour le gouvernement, il y a deux enjeux principaux, à savoir le calendrier et l'image qui est renvoyée par cette pratique. Donc d'abord, le problème, c'est les élections municipales qui approchent à grands pas et il faut retarder à tout prix l'utilisation du 49-3 pour ne pas influencer sur le vote des Français et notamment une possible débâcle de LROM au municipal. Et l'autre problème, c'est un souci d'image puisque le gouvernement cherche à donner la responsabilité du 49-3 à l'opposition. En pointant du doigt leur refus du débat, et quand on sait à quel point les manifestants sont écoutés, ça fait tiquer.
Merci Victor. Et alors, à ton avis, Nicolas, est-ce que les élections municipales vont être passées au 49-3 ?
C'est totalement possible parce que j'ai lu aujourd'hui dans Le Monde, hein, pas Le Monde, la Terre, hein, le quotidien, rassurez-vous, parce que Le Monde, on y est,
merci,
on y marche.
Bon. On avait des doutes.
Bref, Le Monde, le quotidien parle aujourd'hui du risque plus que probable de Bérézina pour LREM à ces élections qui se tiendront dans à peine plus de 2 semaines. Ça fait plaisir. Le parti présidentiel, qui n'a des chances de victoire qu'à Lyon, Strasbourg, voire à Besançon, a déjà intégré que le scrutin ne lui sera pas favorable. Pour vous donner quelques exemples, à Lille, Violette Spielboot, candidate à LREM, est ainsi créditée de 14%, loin derrière Martine Aubry et le candidat Europe Écologie des Verts, selon l'IFOP. À Bordeaux, aucun espoir de victoire non plus pour Thomas Cazenave, qui ne recueillerait que 11% d'après BVA. Même scénario à Metz avec Gérard Lioger, 11%, à Grenoble avec Émilie Chal, 16%, à Marseille, 8%, Montpellier, 7%, et Saint-Étienne, petite dédicace aux Stéphanois du studio, 4%, affaire à suivre évidemment.
Merci Nicolas. Et toi Maxime, tu voulais nous parler d'un autre type de politique avec les femmes.
Effectivement. Mesdames, vos seins sont politiques. Rien de nouveau, me direz-vous, et effectivement. Une victoire en demi-teinte pour l'ex-fémène Yana Zdanova, titrée Libération aujourd'hui. Non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Voilà qui résume plutôt bien le jugement prononcé par la Cour de cassation, donc ce mercredi 26 février. Rappel des faits, Yana Zdanova est une ancienne militante fémène qui était poursuivie pour délit d'exhibition sexuelle suite à une apparition seins nus sur lesquels nous pouvions lire « Kill Poutine » au musée Grévin en 2014. Ce à quoi, 6 ans plus tard et de moult péripéties la chambre criminelle de la Cour de cassation répond clairement que oui, montrer sa poitrine pour une femme est constitutif d'une exhibition sexuelle au regard de l'article. Je ne vous donnerai même pas son numéro car je suis incapable de le lire correctement. Du code pénal. Cependant, l'accusée n'est pas condamnée pour le dit délit. Incriminer cette femme d'exhibition sexuelle serait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, répondent les juges. La Cour de cassation s'est appuyée pour cela sur le principe du contrôle de proportionnalité prôné par la Cour européenne des droits de l'homme. Maître Marie Dosé, avocate de Yana Zdonova, estime que l'intention de la personne ne devrait être un élément qui caractérise l'infraction d'exhibition sexuelle. Ce serait donc la loi qui serait mal faite et anachronique. La Cour de cassation s'obstine à rester sur ce point dans les années 50.
Merci Maxime, et après ce petit épisode national, on va passer à l'international. Avec toi Marie, tu nous emmènes en Allemagne ou en Tunisie ?
Alors on va commencer par la Tunisie, puisque l'Assemblée a voté sa confiance au gouvernement du nouveau Premier ministre Elias Farfar. Un gouvernement enfin formé après 4 mois de tergiversations et composé d'une coalition de deux partis sociaux-démocrates et du parti islamo-conservateur Ennahda, qui devra faire face à des défis nombreux, parmi lesquels criminalité, chômage, dette et sécheresse. Le pays, en effet, qui faisait figure de bon élève au Proche-Orient pour avoir su intégrer les islamistes dans le jeu politique, est en mauvaise posture depuis les printemps arabes de 2011. Son économie tourne au ralenti, le taux de chômage atteint presque 15%. Le gouvernement devra une fois de plus emprunter pour boucler son budget, alors que le pays a déjà une dette équivalente à 70% de son PIB. Un changement tout de même, la récente entrée en exploitation du champ gazier de Nawara, qui devrait réduire le déficit énergétique tunisien. Au niveau politique, le président Kais Saied est critiqué pour son manque de stratégie depuis son élection en octobre, et le nouveau gouvernement risque de voir s'affronter le parti islamiste Ennahda, en mauvais termes avec le gouvernement, et d'autres partis bien plus ancrés à gauche. Affaire à suivre donc.
Et maintenant, Nicolas, tu voulais nous faire un petit point sur les primaires aux USA.
Oui, alors situation totale de crise pour le Parti démocrate aux États-Unis, puisque les grands pontes du parti sont en sueur. Oui, petite référence à ton émission, Victor. Face à la montée de Bernie Sanders, qui lui-même, en fait, ne fait pas vraiment partie du Parti démocrate. Il se présente comme indépendant aux primaires du Parti démocratique. Alors, pour recontextualiser un peu, il faut vous expliquer ce que sont les super-délégués pour ces primaires. Alors, contrairement à la plupart des autres délégués, qui, eux, enfin, les super-délégués et les délégués sont en groupe, votent pour les primaires. Les super-délégués, par contre, ne sont pas sélectionnés ou élus lors des primaires ou caucus qui se tiennent dans chaque État, mais ils sont nommés automatiquement du fait de leur statut comme ancienne ou actuelle élue démocrate, sénateur, gouverneur, etc., ou officiel du parti. Et ils sont libres d'apporter leur soutien à n'importe quel candidat, même ceux qui ne se présentent pas à la primaire, représentant entre 10 et 20% de la masse totale de délégués pouvant voter aux primaires démocrates. Ils sont souvent donc vus comme faiseurs de rois pour ces élections. Le problème, c'est qu'ils font partie de l'establishment du parti. Ils ne soutiendront pas du tout Sanders et ils sont prêts à donner leur vote à des candidats minoritaires, voire ne se présentant pas du tout aux primaires, comme par exemple on fait tourner le nom de Nancy Pelosi, pour évincer Bernie Sanders de la course. C'est particulièrement grave quand Sanders est clairement en pole position après les trois premiers États par lesquels les primaires sont passées.
Merci Nicolas. Et toi Victor, tu voulais nous parler de violences communautaires en Inde.
34 morts et 330 blessés, c'est le bilan actuel des violentes émeutes religieuses qui ont agité New Delhi, la capitale indienne, pendant 3 jours. Alors qu'au même moment, Donald Trump saluait l'incroyable union du peuple indien, des milices hindoues faisaient irruption dans les quartiers musulmans de la banlieue de New Delhi, où elles ont brûlé des maisons, saccagé des mosquées et des commerces. Et ce regain de violence fait suite à l'adoption en décembre dernier d'une loi de mise au ban des musulmans, et notamment des réfugiés politiques du Pakistan ou du Bangladesh, qui pourraient devenir des citoyens de seconde zone.
Et cette fois, Marie, tu nous emmènes en Allemagne.
Oui, alors l'Allemagne qui connaît en ce moment une actualité très mouvementée, puisque le 18 février, 12 personnes appartenant à un groupuscule d'extrême droite qui voulait imiter le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont été arrêtées. Leur chef est connu et surveillé depuis plusieurs mois par les autorités, ce qui a suscité un débat sur la surveillance par le gouvernement des présumés terroristes. Quelques jours plus tard, une fusillade dans deux bars à Chicha a fait 9 morts. Elle était motivée par des motifs ouvertement racistes. De quoi raviver un sujet brûlant, celui du retour de l'extrême droite dans un pays encore secoué par l'exécution, par les extrémistes, du ministre Walter Lübcke en août dernier. Selon l'estimation, le bilan des violences néo-nazies depuis 1990 est de 100 à 170 000 morts par an pour des motifs purement racistes.
Et tout de suite après, la revue de presse, qu'on commence avec un François assez connu.